Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon lundi également, Marianne Paquette qui vous accompagne au cours de la semaine et de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute sur Canal M. Être parent, on le sait ou on s'en doute, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, d'organisation également, de patience, de débrouillardise, de plein de choses, et peut-être davantage quand l'un des deux parents vit avec un handicap. Être parent quand on vit avec une limitation, ça se passe comment? C'est quoi les besoins particuliers? C'est quoi les défis, la réalité au quotidien? Ce sont les questions que je vais poser au cours de ces prochaines minutes à Stéphane Demers, Solène Démétré et France Durette. Je vous les présente à l'instant. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Merci Hello. D'être là. Bonjour Stéphane. Stéphane, vous êtes du côté de Québec oui. et vous avez un petit peu un profil différent. Je commence par vous. J'avais décidé de finir par vous, mais c'est ça en direct. D'être en direct. Stéphane, vous vivez pas avec une limitation, vous. Par contre, vous êtes le conjoint d'Ariel qui vit oui. avec un handicap depuis sa naissance et vous êtes l'heureux papa d'un tout petit garçon qui a même pas 7 mois encore.
Ouais.
Et vous avez également 3 autres enfants d'une union précédente. Vous serez ouais. là peut-être un petit peu pour présenter l'autre côté de la médaille aujourd'hui. Merci d'être là. C'est la grosse tempête à Québec?
Ben, pas de ma fenêtre en tout cas. C'est le ciel bleu.
Solène Démétré, vous êtes la maman de 2 petites filles de 4 et 2 ans. Et puis, vous êtes tétraplégique
oui.
suite à un accident que vous avez eu à l'âge de 15 ans.
Oui.
Et vous allez vous marier cette année, je tenais
Bien
à
ça.
Le préciser, parce que c'est très chouette comme nouvelle.
Merci.
France Durette, vous êtes atteinte de rétinite pigmentaire, et ce, depuis l'âge de 23 ans. En fait, ça a été diagnostiqué à cet âge-là. Vous êtes la maman d'une fille de 22 ans et d'un garçon de 19 ans que vous avez élevé seul, sans conjoint.
Exact.
Merci à tous d'être là. Je débute. Être parent quand on vit avec un handicap, c'est quelque chose peut-être qui demande beaucoup de défis au quotidien, mais qui est possible. Vous en êtes la preuve. Toutefois, au départ, quand être parent, c'est encore juste un projet, que les enfants n'étaient pas là, est-ce que vous aviez des doutes? Des inquiétudes à savoir, bon, est-ce que financièrement je vais y arriver? Est-ce que du point de vue des responsabilités, de la santé physique, je vais pouvoir le faire?
Ben, si je peux commencer.
Oui, Solène.
Pour moi, je suis quand même tétraplégique. Pour moi, être maman, c'était plutôt un rêve, c'était pas vraiment un projet. On n'avait pas vraiment de ressources à savoir si c'était possible de physiquement, de le faire. Je savais pas si j'étais capable de tomber enceinte. Donc, déjà, à la base, c'était quelque chose à réfléchir, à penser, mais c'était quelque chose à prévoir. Quand je suis tombée enceinte, ça a été suite à le voyage à Las Vegas qu'on a fait, mon conjoint et
Tout
moi.
Tout se passe à Las Vegas.
Et bien, c'est ça. Mais on a ramené quelque chose de vraiment magnifique. J'ai appris que j'étais enceinte le 23 février, puis tout le monde était content pour nous. C'est sûr que... La plupart des gens étaient inquiets parce que mm-hmm. être tétraplégique, les jambes ne fonctionnent pas, bien sûr, mais les doigts non plus. Mes bras sont aussi limités. Il y a des muscles qui sont non fonctionnels. Donc, on se demandait donc comment on allait faire pour que je puisse me débrouiller. Par chance...
Comment?
Oui?
Comment tu fais pour te débrouiller, justement?
OK. Honnêtement, mon conjoint a pris le RQAP qui est...
Oui. Comme Stéphane Demers. Oui.
Oui, on a une histoire assez semblable, on dirait. Deux Stéphane en plus.
Oui, oui, parce que votre conjoint, Solène, s'appelle Stéphane aussi.
C'est du bonbon,
Oui, quand même. Puis c'est ça, il a pris 1 an et demi de congé de parental.
Okay. Pour la première.
Pour oui. la première, oui. Il a pris les semaines réglementaires, puis il a pris à ses frais aussi par la suite.
Oui, c'est ça.
Oui, jusqu'à ce que ma fille soit capable de monter sur moi, de grimper, parce que j'étais pas capable de la prendre de par terre.
Tout
Donc, on a attendu jusqu'à ce qu'elle ait 14 mois avant qu'il retourne au travail. Puis par la suite, ça a été tout seul. Ouais. Ça s'est fait.
Solène, ce qui est particulier, c'est que suite à votre accident, vous aviez 15 ans. Quand vous vous êtes réveillée, la première question que vous avez posée au médecin, ouais, c'est « Est-ce que je vais pouvoir être une maman? »
Oui, c'est sûr qu'on se demande si on va remarcher, mais en premier lieu, c'était « Est-ce que je vais être capable d'avoir des enfants quand même? Est-ce que ça se fait quand même? » Puis les médecins ne savaient pas trop quoi me répondre parce que ça se voit pas. Mm-hmm. Ça se voit. Puis encore aujourd'hui, là, je le vois dans des forums de discussion, dans des associations. Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas des tonnes, des Solène, des Maîtrés. France, vous, c'était bien différent parce que les enfants, ce n'était pas du tout dans vos projets de vie.
Tout à fait, tout à fait. Alors, la question se pose plus ou moins, étant donné que ma fille a vu le jour par enchantement, disons, et ce n'est pas un oubli. Je fais partie, moi, je me considère en faisant partie des faibles pourcentages de la vie parce que peu de gens, tu sais, disent qu'il y a 1% des gens qui peuvent tomber enceinte en prenant la pilule anticonceptionnelle. Bon, au même titre que pour la rétinite pigmentaire, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui ont cette pathologie. Alors, je fais partie des faibles pourcentages de la vie, mais bon, le sort en a décidé ainsi. Et puis, donc, moi, j'ai pas eu à me poser la question parce qu'à l'époque où ma fille, je parle de ma fille parce qu'elle qui est arrivée en premier, mais à l'époque où j'ai eu mes enfants, je ne savais pas que j'étais atteinte de rétinite pigmentaire.
Donc, évidemment, il n'y avait pas l'obstacle peut-être de l'handicap là, dans le chemin.
Exact. Mm-hmm. Je savais cependant que je trébuchais sur certaines choses, mais on attribuait ça à peut-être être lunatique ou à être dans la lune ou à penser à autre chose quand tu te promènes, tout ça. Ouais. Et c'est ça.
Ouais. Stéphane, vous aviez 3 enfants déjà d'une union précédente. Quand vous avez rencontré Ariel, c'était dans vos plans d'avoir des enfants? Est-ce que ça pouvait être effrayant de se dire, OK, ben il y a beaucoup de responsabilités qui vont m'être induites?
Ben, moi, j'étais vasectomisé.
Ah oui.
Quand j'ai rencontré Ariel. Et elle me dit, c'est une des premières conversations qu'on a eues, c'est est-ce que tu serais prête à remettre la machine en marche? Et c'était oui. Mais étant donné que je savais que sa maladie n'était pas dégénérative et surtout pas génétique, donc la question a été tout de suite évincée sur le fait que on veut des enfants, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Puis même à ça, quand Ariel est tombée enceinte dernièrement, même si l'enfant aurait eu ce qu'Ariel avait, on aurait poursuivi la grossesse quand même. Mm-hmm.
Dans votre cas, France, la rétinite pigmentaire, c'est héréditaire?
Oui, c'est malheureusement héréditaire. Ça se transmet de génération en génération, mais ça peut sauter des générations.
Okay.
Et dans le cas présent, dans mon cas présent, je suis la seule dans la famille, que ce soit du côté maternel ou paternel. Il n'y a pas personne, mes cousins, mes tantes, mes oncles, personne qui a cette problématique-là. Et mes enfants ne l'ont pas jusqu'à présent.
Mm-hmm. Okay.
Mais ça peut se déclarer plus tard, cependant.
Et ça n'a jamais été une crainte de leur transmettre?
Ben à l'époque, non, parce que vous je ne le savais pas. Ouais. Mais et bien sûr, quand j'ai découvert ce problème, on a fait les démarches pour que les enfants aient des suivis relativement très jeunes pour découvrir s'ils avaient cette pathologie-là, parce que malheureusement, c'est dégénératif. Quoi qu'il n'y a pas grand-chose à faire, si quand tu es atteint de rétinite pigmentaire, ben malheureusement, ton champ de vision rétrécit, et il n'y a rien à faire non plus. Il n'y a pas de transplantation. Y a, du point de vue médical, il n'y a absolument rien qu'on peut y faire. Donc, pour les enfants, on n'aurait pas pu rien faire non plus, si ce n'est que d'avoir des aides techniques beaucoup plus rapidement.
Oui. La place du conjoint, Solène, quelle place ça prend? Est-ce que sans Stéphane, ça serait impossible? Est-ce qu'il a des responsabilités différentes?
Oui, au départ, quand je l'ai rencontré, c'était clair qu'on voulait des enfants tous les deux. En tout cas, il ne m'a jamais fait peur que ça lui ait fait peur. Peut-être un peu, mais pour lui, la responsabilité, j'en fais autant que lui à la maison. Moi, je suis maman à la maison. Mes enfants ne vont pas à la garderie, ni une ni l'autre. Je suis avec elle toute la journée. Donc, pour moi, on est 50-50. On fait une bonne équipe. On est un team, là, mon conjoint et moi. Et c'est sûr que lui, il y a certaines responsabilités que je ne peux pas faire. Comme jusqu'à présent, je ne conduis pas encore. C'est dans les plans, par exemple. Je sais que c'est possible de le faire. C'est plus complexe, mais c'est possible. Donc, si les enfants sont malades, s'ils ont allé à l'hôpital, à la clinique, c'est sûr que c'est lui qui y va.
Et plus tard, le taxi, hockey, soccer, cours de danse, natation.
Là, ils ont des cours de danse en ce moment. On y va toute la famille ensemble. On n'a pas de véhicule adapté. S'il me prend dans ses bras pour me transférer, bon, c'est sûr que c'est plus complexe qu'un couple normal, mais on prend le temps de le faire. Puis je pense que c'est ça un peu aujourd'hui que les... Je ne veux pas généraliser les gens, mais on dirait qu'on oublie de prendre le temps de le faire. Puis nous, ben, c'est notre mode de vie, tout simplement.
Tu as bien raison. Les gens courent après le temps.
Oui, c'est vrai. Puis là, j'ai décidé de ne pas travailler, d'arrêter mon bénévolat, d'arrêter de faire tout ça pour prendre le temps de vivre avec mes enfants, de les élever. Puis quand ils vont être rendus à l'école, ben là, on y pensera.
France, vous, le conjoint, ben, il n'était pas présent. Est-ce qu'il y avait d'autres membres de votre famille, de votre entourage, pour peut-être pallier ce besoin-là?
Oui, j'ai effectivement eu les membres de ma famille qui étaient proches, qui m'ont beaucoup supportée et qui me supportent encore. Et beaucoup de mes amis proches m'ont beaucoup aidée. D'ailleurs, grâce à eux, mes enfants ont eu un développement normal, une vie normale, parce que ayant une rétinite pigmentaire, bien évidemment, on ne peut plus conduire, hein, ayant un champ visuel rétréci. Donc, comme tu disais, le soccer, la natation, etc., ça prend quelqu'un pour te déplacer, que ce soit un taxi, un ami ou un transport quelconque. Donc, si ce n'est que juste ça, en partant, heureusement qu'il y avait de l'entourage pour ça, mais aussi pour le reste, là, il faut aller à l'école, il faut aller à l'épicerie, le déplacement est assez complexe. Et bien, il y a des petits trucs qu'on apprend aussi. La vie n'a moins de spontanéité maintenant.
Oui.
Dans le sens qu'il faut prévoir plus à
l'avance. Plus d'organisation.
Exact.
Mais j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que vous avez en commun. Pour y arriver, ça fait partie des petits trucs. Il faut être organisé.
En tout cas, pour nous, on ne l'est pas du tout.
Ah oui?
Non, vraiment pas. On est très, très, très spontané. On peut décider demain matin de passer une fin de semaine à Québec. Là. Tu sais, on n'est pas...
Aller voir Stéphane demain.
Mais oui.
Oui, c'est ça. On adore Québec. Mais en fait, oui, il faut être un peu organisé. Il faut penser davantage. Il faut penser à tout.
Mais je pensais par exemple à votre accouchement qui a dû être planifié à Sainte-Justine sous surveillance. Ça devait être planifié par exemple.
Oui, ça a été planifié à 36 semaines parce que vu que c'était la première fois qu'il y avait une femme tétraplégique qui accouchait, on a dû planifier pour être sûr que le travail débute pas prématurément parce qu'on savait pas si j'allais le sentir ou pas. Moi, d'après moi, j'allais le sentir parce que je sens certaines choses dans mon corps, je sens les douleurs, les maux de ventre et tout ça. Mais les médecins ne voulaient pas prendre le risque de provoquer quelque chose de prématuré à la maison. Donc, à 36 semaines, je suis rentrée à l'hôpital pour avoir une césarienne qui était planifiée.
Stéphane, à Québec, est-ce que le fait d'avoir eu 3 enfants antérieurement, ça vous sécurisait? Est-ce que vous avez appris de ça et vous pouvez maintenant le reproduire les stratégies ou les petits trucs dans la vie de maintenant?
Ben oui, assurément. C'est vraiment, j'ai une confiance en moi que... J'aurais peut-être pas si, de un, si j'étais plus jeune,
puis
de deux, si j'avais pas eu d'enfants. C'est sûr qu'avoir des enfants avec Ariel, ça aurait pu m'emmener une certaine insécurité face à l'avenir.
Oui.
Mais moi, je vois ça tellement beau. Puis en plus, RQAP, je connaissais pas ça, moi.
C'est quoi? Oui, parlez-nous-en.
Ben, RQAP, c'est comme... C'est ce qui remplace l'assurance chômage, mais pour les parents qui prennent le congé pour s'occuper des enfants, l'affaire, c'est que vu qu'Ariel, elle est à la maîtrise à l'université, donc tous les congés partageables, je les ai pris.
Okay.
Donc, je me trouve à avoir pris à peu près 8 mois de congé. Là. Je suis encore en congé RQAP jusqu'à fin mars, donc depuis juillet. Donc, c'est génial. Moi, j'ai eu le temps de voir Louis-Joseph grandir.
C'est un beau privilège.
Ces choses-là que j'avais pas vues des autres parce que j'étais au travail et tout, même si j'étais très présent pour les autres aussi. Parce que c'est jamais pareil. Donc, c'est sûr que l'expérience que moi j'ai de la vie m'apporte que du bonheur. Puis apporte aussi un soutien à Ariel puisque j'anticipe, je suis capable de, tu sais, d'entrevoir ce qui s'en vient, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur la façon de s'occuper des enfants, mais il reste que oui, c'est la sécurité est là.
Et l'entourage, la famille, les amis, quand ils ont entendu que vous vous alliez vous lancer dans cette aventure-là, à quoi ils ont pensé? Est-ce qu'ils vous ont traité de fou?
Ben, on l'a su après.
Oui, ben oui.
Sur le coup, je pense pas qu'ils osent le dire, là. Je pense
non,
qu'ils,
c'est ça. À part après, quand ils ont vu qu'Ariel avait le garçon dans ses bras et tout, il y a un de mes cousins qui est venu voir et a dit « Vous faites tomber des barrières.
Uh-huh.
Vous êtes, depuis qu'on vous connaît, là, depuis que vous êtes ensemble, là, on a tous nos préjugés tombent. On pense tout le temps que vous êtes trop fou, que ça n'a pas de bon sens, tout ce que vous entreprenez. Puis, finalement, on s'aperçoit que c'est nous autres qui se trompent.
Bravo.
Bravo.
On est bien contents de ça. Puis, on continue.
Dans votre cas, Solène, vous l'avez vécu, le regard des autres?
Ah oui, beaucoup. Mais en même temps, je pense que mes proches me connaissent. Puis, ils ont appris à connaître Stéphane aussi. Puis je pense pas qu'ils ont été vraiment surpris de voir qu'on était capable de le faire. Mais peut-être les parents éloignés, oui, parce qu'ils nous connaissent un peu moins. Mais on a tellement fait de choses, Stéphane et moi, que ça les a pas étonnés là, de voir qu'on était capable de réussir ça. Là.
Mm-hmm. France, vous, ce qui est particulier, peut-être différent, c'est que vous avez des grands-enfants. Ils retiennent quoi de cette enfance-là avec une maman différente?
Ben, disons qu'ils ont pas eu vraiment, autre que d'avoir, étant premièrement monoparental, déjà en partant, c'était un petit peu différent.
Mm-hmm.
La dynamique à la maison était un petit peu différente. Mais ils ont pas de séquelles comme telles, si ce n'est que dire, maman, elle vient pas jouer au baseball avec nous, elle vient pas lancer le ballon, elle vient pas... C'est parce qu'il y a des choses que je peux faire, mais il y a d'autres choses où c'est plus difficile. Bon.
Mais là, pour encourager, par exemple, mais, ça,
ah oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Maman, t'es sur le terrain de soccer, ça, c'est certain. Mais maman, moi, pas d'attraper le ballon, là, tu vas l'avoir dans le front. Bon. Mais pour dire qu'est-ce qu'ils en ont souffert, non, je ne crois pas. C'est certain que les enfants, ils ont appris tard, en fait. Ils ont posé des questions tard à voir que j'avais une déficience visuelle parce que ça paraît pas dans mon visage.
Non.
Donc, et je n'avais pas de canne blanche. J'ai eu une canne blanche toi aussi, que tout récemment. Donc, mes enfants étaient jeunes, adolescents à l'époque quand j'ai eu des aides techniques. Donc, avant ça, ils voyaient pas de différence véritablement.
Mm-hmm.
J'avais quelqu'un qui vivait à la maison pour m'aider dans les transports puis les petites choses de la maison, de l'entretien de maison courante. Mais autre que ça, pour eux, ils ne faisaient pas de distinction.
Mm-hmm. Là-dessus, on va prendre tout de suite une courte pause, question de se laisser respirer. Et puis, restez pas loin parce qu'on revient dans quelques instants.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_m.
Je suis de retour avec Solène Démétré, France Durette, ici en studio, Stéphane Demers à Québec. le sujet du jour, être parent quand on vit avec un handicap. France, c'était intéressant ce que vous disiez pendant la pause, parce qu'avant de se quitter, on parlait de vos grands-enfants qui auraient pu avoir une expérience soit marquante, de vivre avec une maman qui est différente. Vos enfants ont appris votre handicap quand ils étaient des ados, et pour eux, ça a été un petit peu difficile.
Bien, c'était un choc, en fait, de voir ta mère qui n'était pas identifiée handicapée auparavant. Et là, tu te promènes avec une canne blanche. Ben, mes adolescents ont pris ça un petit peu difficile. Je pense à ma fille, entre autres, qui a pris ça un petit peu plus difficile. Alors là, j'ai parlé avec les intervenants de l'Institut Nazareth Louis Braille pour dire, bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour leur faire accepter plus facilement ma déficience visuelle? Et on m'a dit, bon, bien, tiens, qu'est-ce que tu dirais si on leur faisait passer, on leur mettrait un simulateur de basse vision au visage et on les ferait déplacer avec l'aide d'une canne blanche, ce qu'on a fait. Donc, et quand ma fille, entre autres, a mis le simulateur de basse vision et elle s'est mise à marcher, je me suis vue marcher. Le dos courbé, un pas à la fois, j'avais l'air de quelqu'un de très âgé. Alors, et là, après, ils ont dit, bon, ben tiens, maintenant, on te donne une canne blanche, on va te montrer une petite technique 101, vite, vite, comment ça fonctionne. Et là, ma fille s'est redressée, elle marchait droite, même chose que moi maintenant, elle marchait aussi rapidement, elle pouvait me suivre. Et là, depuis, ben au lieu de me suivre et d'être gênée de voir sa mère avec un handicap et d'être soit très en avant ou très en arrière dans le centre commercial, bien, elle marche à mes côtés et puis ça a réglé le problème. Oui. Et à la suite de ça, elle m'a dit, maman, est-ce qu'on pourrait pas refaire le même exercice, mais avec mes amis à l'école?
Ah oui, pour sensibiliser aussi les copains à l'école.
Les amis à l'école, ce que j'ai fait dans plusieurs écoles.
Ah, c'est une bonne idée.
Belle initiative. Ouais. Solène, votre petite Léonie a 4 ans. Oui. Samuel a 2 ans, peut-être qu'il est trop jeune, mais à 4 ans, on commence à poser des questions.
Bien, justement, la semaine dernière, Léonie m'a demandé ce qui m'était arrivé pour que mes jambes ne fonctionnent plus. Mais pour elle, c'est pas... Je suis sa maman. Ouais. Je suis pas handicapée, puis j'emploie jamais ce mot-là. Pour nous, on est tout le temps de bonne humeur, on est tout le temps souriant. Pour nous, quand on va dans un centre commercial, elle me pousse. Viens, maman, je vais te rouler. T'sais, c'est toujours... Mm-hmm. C'est toujours happy chez nous, là. Mais la semaine dernière, quand elle m'a posé ça comme question, je savais pas quoi lui répondre parce que je veux pas lui faire peur en lui disant que j'ai sauté dans une piscine puis je me suis cassé le cou. Ça se dit pas vraiment, je pense, à un enfant de 4 ans. Ce que je lui ai expliqué, c'était oui, j'ai sauté dans une piscine, j'ai eu un accident. Maman est restée paralysée, elle bouge plus les jambes. Elle m'a regardée puis elle me dit ben, c'est pas grave, maman, on peut danser quand même. Puis on a mis de la musique puis on a dansé. Fait que elle n'est pas rendue à ce stade-là. Ça va arriver, j'imagine.
Puis et vous allez être prête à répondre à ces questions-là.
J'espère.
On évolue avec en même temps que nos enfants, je crois.
Ben, je pense que oui, oui. Puis les enfants, ils s'adaptent tellement bien. Puis des crises d'adolescence, tout le monde en vit, handicap, pas handicap. Puis des remises en question, tout le monde en vit aussi. Donc, il ne faut pas s'arrêter juste parce qu'on a un handicap. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que nos enfants vont penser? Je pense que si nous, on vit bien avec ça, c'est ce qu'on va transmettre à nos enfants. Puis le reste va bien aller.
Mm-hmm. Stéphane, pour connaître un petit peu Arielle, je sais qu'elle aussi, il y a beaucoup de bonheur chez elle, sûrement beaucoup de plaisir et de joie dans votre maison. Est-ce que vous avez eu recours, on parlait d'aide technique avec la canne blanche, de votre côté à la maison à Québec, est-ce qu'il y a eu aussi des aides techniques pour vous aider?
On a eu des prêts de parents en plus, oui, justement, pour la couchette. Donc, la couchette s'ouvre comme un peu des portes coulissantes. Mm-hmm. Quand elle a accès directement au niveau du lit du bébé, ça, c'est vraiment génial. Pour ce qui est du bain, ben le bain est sur un genre de table à roulettes qui elle peut rentrer en dessous, finalement, avec sa chaise, puis elle peut... parce que c'est elle qui donne le bain carrément. Là, elle aime tellement ça que moi, je suis juste là pour seconder puis faire des bulles dans l'eau avec le garçon, là, mais elle fait quasiment autonome à 100%.
Mm-hmm.
Donc, des petites choses comme ça, un petit Moïse, mais il y a beaucoup de choses qu'on a retournées parce que c'est jamais parfait, là, c'est normal, mais en gros, c'est pas mal le bain et la couchette qui était plus pratique.
Mm-hmm. Solène aussi, je voyais vos yeux briller, là, ça vous rappelle des souvenirs, ça?
Ah, tellement, puis grâce à Parents Plus, c'est vraiment grâce à eux que j'ai eu un autre enfant parce que j'ai pu voir que j'étais capable de me débrouiller parce que ma première grossesse, c'était vraiment pas planifié. On en voulait, mais c'était pas planifié. C'était comme un peu vague, un peu oui, on en veut, mais bon, faut être conscient un peu aussi.
Quand on a pratiqué aussi.
Ouais, ben oui, ça n'a pas été long, par exemple. Mais quand on a pris conscience que Parents Plus existait, ça a vraiment changé. Ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Puis la basinette, extraordinaire. J'ai pu changer des couches là-dedans. Ça a été ma table à langer. Ça a été un parc de jeux pour que je puisse m'occuper de mon enfant. Puis je pense qu'Ariel aussi.
Ben oui, moi c'est sûr que je suis un peu habile de mes mains, donc j'ai fait une table à langer exprès pour elle.
Oh, wow.
J'ai fait d'autres choses à la maison qui l'accommode, mais souvent, elle sert de la couchette justement pour, comme parc de bébé, là, qu'elle puisse bien s'occuper avec les jouets et tout, parce que par terre, elle est capable d'aller par terre, mais Louis-Joseph pèse 21 livres, là, le prendre d'une main, elle ne pourrait pas le lever. Là.
Non,
donc, tant qu'il sera pas grand de se tenir sur ses jambes et monter sur la chaise, comme tu disais tantôt, on est entre les deux en ce moment.
La clinique Parents Plus, qui est une initiative du Centre de réadaptation, Lucie Bruno, on glissera le lien sur notre site. France, ça n'existait pas, j'imagine, quand vos enfants étaient petits.
Moi, je n'ai pas eu recours à ces choses-là. Ça devait exister, j'imagine, qu'à l'Institut Nazareth Louis-Braille, ça devait exister, mais je ne connaissais pas. Évidemment, comme je ne connaissais pas mon handicap visuel, ben, je n'avais pas recours à rien de ça.
Ouais.
Si ce n'est que moi, mes enfants ont joué dans un parc, tu sais, des blocs par terre, partout dans la maison. Non, parce que j'aurais trébuché, puis je me serais fait mal. Alors...
Il y a des stratégies
qu'on met en place sans nécessairement le savoir véritablement. On le fait d'instinct.
Simplement. Moi, pour avoir vu des photos d'Ariel quand elle était petite, vu que sa mère, Ariel est née sans l'usage de ses jambes, je sais qu'elle, avec les Shriners, il y avait beaucoup d'aide aussi.
Mm-hmm.
Donc, peut-être que Parents Plus n'existait pas, mais il y avait d'autres choses. Je me souviens d'avoir vu Ariel à 2-3 ans avec sa première chaise, là, un genre de big wheel. En plastique, là, c'était...
Mais je pense que c'est plus pour les parents qui n'avaient pas vraiment de ressources dans ces temps-là.
Peut-être
plus pour les enfants. Je vous interromps parce que quand on est en bonne compagnie, ça passe vite. Il reste une minute et demie, je pense.
Déjà?
Je veux vous laisser à vous trois le mot de la fin parce que, enfin, je le souhaite, il y a des parents qui nous écoutent ou peut-être de futurs parents qui hésitent à le devenir. C'est quoi votre message?
Moi, en fait, aujourd'hui, j'ai fait une entrevue avec vous. Puis à chaque fois que j'en fais une, c'est tellement pour montrer que c'est possible de le faire. C'est sûr qu'il faut trouver la bonne personne, comme tous les couples qui sont debout, assis, peu importe, il faut trouver la bonne personne. Moi, je l'ai trouvée, j'étais chanceuse, je l'ai cherchée, puis je l'ai trouvée. Puis je pense que c'est possible pour tout le monde. Je vous le souhaite tellement de le vivre, ce que vous voulez vivre, que ce soit pour n'importe quel projet.
Et un mariage.
Ah, oui.
Félicitations.
Merci.
France.
Ben, tout d'abord, faut pas avoir peur du regard des autres. C'est pas en se méfiant du regard des autres qu'on va avancer dans la vie. Donc, c'est certain que les gens peuvent poser des embûches, mais faut passer outre ces choses-là et foncer, comme dit notre ami.
Et Stéphane, rapidement?
Ben, je pense qu'on a des rêves, on a tous des rêves, on a les ressources à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'Ariel fait des conférences en ce moment dans les écoles et dans les entreprises pour montrer aux gens.
Stéphane Demers, Solène Démitré, France Durette, merci beaucoup de votre participation. Ça a été un plaisir de vous rencontrer.